Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Christian Page, bonjour.
Salut Mathieu.
Bon, dans nos pratiquement les derniers éphémérides du mois d'avril.
Absolument,
faut le dire,
oui.
Allan Kardec, tu nous as glissé un mot sur lui il y a quelques semaines à peine.
Oui, je t'en avais parlé parce qu'on avait évoqué le début du spiritisme s'était passé à la fin du mois de mars 1848. Les sœurs Fox avaient entrepris de communiquer avec des coups dans le mur. Je ne sais pas si tu te rappelles.
Oui.
Monsieur Splitfoot. Et là, les fillettes avaient dit si vous nous entendez, Monsieur Splitfoot, faites comme moi. Elles ont tapé deux fois dans leurs mains. Il y a eu deux coups dans les murs. Alors, à ce moment-là, on venait d'entamer la première communication volontaire avec, soi-disant, un esprit. La base du Ouija. Il faut comprendre que les histoires de fantômes, elles sont avec nous depuis l'Antiquité. Mais cette fois-là, on entreprenait une première communication volontaire et ça a donné naissance au spiritisme. Et le spiritisme, éventuellement, a découlé sur une religion qu'on a appelée le spiritualisme. Et aujourd'hui, c'est un peu l'un de nos éphémérides de la journée. C'est en 1857, donc à la fin du mois d'avril 1857, que paraît en France un livre qui va révolutionner la pensée que l'on a sur le monde des esprits. Ce livre s'appelle « Le livre des esprits ». Il est signé par un type dont l'auteur signe sous le nom de Allan Kardec. Mais c'est un pseudonyme. Le type en question s'appelle Hippolyte Léon Denisard Rivaille. C'est un instituteur qui est né à Lyon en 1804. Il a toujours été c'est un individu qui vient de une petite bourgeoisie. Bien éduqué, une formation académique. Il écrit des ouvrages, d'ailleurs académiques, pour les étudiants. Il offre des cours. C'est un individu très humaniste et très positiviste. Ce sont les pensées qui vont le guider. Puis en 1855, alors que ce spiritisme lancé avec les Sœurs Fox gagne l'Europe et devient pratiquement une activité bourgeoise, il faut se rappeler que beaucoup de gens bien huppés s'adonnaient à ce spiritisme. Oui. On sait, la reine Victoria s'est adonnée au spiritisme. Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, était un passionné de spiritisme ici au Canada dans les années 30-40.
Lester B. Pearson?
Non, c'était William Lyon Mackenzie King qui s'intéressait beaucoup au spiritisme. Donc, c'était une activité qui était relativement bourgeoise et bien accueillie. Et en 1855, ce Hippolyte Rivaille se fait proposer d'assister à des séances de spiritisme. C'est les fameuses tables tournantes, les tables qui cognent. Et ce Hippolyte Rivaille est plutôt sceptique par rapport à ça, mais bon, la porte est ouverte. Et il est critique par rapport à ça. Et en fait, on l'invite pour deux raisons. Dans un premier temps, on fait appel à son sens critique. Et dans un deuxième temps, comme on collige de l'information à travers ses soi-disant communications avec l'au-delà, on espère que ce Hippolyte Rivaille, par son esprit cartésien, va réussir un peu à décanter cette information et la mettre sur papier, en faire une espèce de thèse de départ. Alors, Rivaille assiste à ça. On est en 1855. Il est très impressionné. Et au fur et à mesure qu'il va s'impliquer dans ces milieux du spiritisme, il va lui-même se découvrir des talents de médium. Il va lui-même entrer en contact, ou à tout le moins, il croit entrer en contact avec l'esprit son propre esprit qui se serait désincarné, se serait réincarné et désincarné d'une vie à l'autre. Un druide du nom de Allan Kardec, qui va devenir d'ailleurs son nom de plume. Et en 1857, avec tous les enseignements qu'il a colligés de cet au-delà, il va écrire ce premier livre, le livre des esprits, qui sera suivi en 1861 par le livre des médiums. Et avec ça, il jette les bases d'une nouvelle religion, le spiritualisme.
Est-ce qu'il y a encore des membres de cette religion-là maintenant?
Le spiritualisme, d'abord, Allan Kardec est décédé en 1869. Ouais. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise. C'est la tombe la plus fleurie du cimetière. Les gens s'imaginent souvent, c'est Jim Morrison ou Edith Piaf. Non, la tombe la plus fleurie est presque celle d'un inconnu pour la plupart des gens, celle d'Allan Kardec. Ses ouvrages continuent d'être publiés et diffusés à travers le monde. Et dans certaines communautés, et dans certains pays, par exemple au Brésil, le spiritualisme est la troisième religion en importance. On parle ici de religion officielle. Plus de 6 millions de Brésiliens se réclament du kardécisme. Donc, cette vision que Hippolyte Rivaille dit Allan Kardec donnait du monde de l'au-delà. Et selon Kardec, d'ailleurs, sur sa pierre tombale, il y a cette inscription, cette épitaphe qui dit « Vivre, mourir et renaître pour mieux progresser, telle est la loi. » Donc, on voit Kardec a introduit cette vision que notre âme est immortelle, qu'elle va se réincarner d'une vie à une autre, toujours dans la vision d'aller vers un mieux-être, un mieux soi-même, finalement, et à travers toutes sortes d'incarnations. Donc, ce Allan Kardec a transformé la vision que l'on avait du monde de l'au-delà en créant cette nouvelle, en lançant fondant cette nouvelle religion, le spiritualisme.
On commémore, façon de parler. Là. Ouais. C'est un peu la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour plusieurs à ce moment-là, le 30 avril 1945. Selon toute vraisemblance, je dis ça parce que je connais la suite de ton histoire, là, mais Adolf Hitler se serait suicidé dans les bunkers sous la chancellerie allemande. Donc, ouais. C'est à ce moment-là que le chef de l'Allemagne nazie
disparaît,
donc c'est la fin du régime.
Voilà, c'est ce que nous racontent les livres d'histoire. Nous sommes le 30 avril 1945, comme tu l'as mentionné, l'armée rouge est littéralement aux portes de Berlin. Les chances maintenant de gagner, même si Hitler a entretenu ce fantasme-là de combattre les Alliés, là, il doit bien se rendre à l'évidence, c'est perdu d'avance. Là. Maintenant, l'armée
Berlin
rouge
est sous une pluie de bombes.
Exactement. Et même l'armée allemande a déserté les rues. Ouais. On envoie, et c'est triste de penser ça, mais on envoie des gamins de 12 ans dans le costume des jeunesses hitlériennes avec des carabines qui s'enrayent pour essayer de combattre les hommes de l'armée rouge. C'est devenu presque une parodie de ce qui était la Deuxième Guerre mondiale. C'est triste d'imaginer un truc comme ça. Et à ce moment-là, à 16 mètres sous la chancellerie, Hitler sait que le combat est perdu et il va, selon les livres d'histoire, lui et sa nouvelle épouse, Eva Braun, vont se suicider. Lui en se tirant une balle dans la tête et Eva Braun en mordant dans une capsule de cyanure.
Ouais. Après, en compagnie de quelques proches
Donc des proches du régime qui sont, ouais, d'ailleurs, Goebbels va lui aussi se suicider ce jour-là avec son épouse et ses enfants. Après la mort d'Hitler et d'Eva Braun, les corps sont transportés à l'extérieur du bunker. Tu l'as mentionné. À ce moment-là, la ville de Berlin est sous une pluie de bombes et il y a dans la cour de la chancellerie un trou creusé par un éclat de bombe. Alors, on place le corps d'Eva Braun et de Hitler dans ce trou, on les arrose d'essence et on met le feu. Mais à cause des bombardements, faut l'avouer, c'est une crémation qui est très sommaire. On retourne à l'intérieur du bunker et là, les gens qui sont autour d'Hitler vont prendre la fuite à leur tour. Est-ce que Hitler est réellement mort de cette façon? Parce qu'il faut l'avouer.
Et voilà. Là-dessus, là.
Parce que dès le lendemain de la mort d'Hitler, lorsque l'information a commencé à circuler, Hitler s'est suicidé, il est mort, il a été déposé dans un trou de bombe à l'extérieur du bunker. Évidemment, des rumeurs de complot, des rumeurs d'évasion commencent à circuler. Et ces rumeurs-là, elles seront également entretenues par Staline lui-même. Parce que quelques semaines plus tard, entre à la fin juillet, le début août 1945, après la chute, après que l'Allemagne ait capitulé, il y a ce qu'on appelle les rencontres de Potsdam. Et durant la rencontre de Potsdam, il y a Churchill est là, il y a Truman qui a remplacé Roosevelt à la tête des États-Unis et Staline. Et Truman demande directement, parce qu'on n'a pas trouvé le corps d'Hitler, c'est-à-dire que les Américains, les Alliés ne l'ont pas trouvé. Alors, c'est bien important de dire les Alliés ne l'ont pas trouvé. Et lorsque, parce qu'on sait que c'est l'armée rouge, les premiers qui sont entrés au bunker. Et lorsque Truman pose la question à Staline, déjà à ce moment-là, on commence à avoir un bras de fer entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et lorsque Truman pose la question à Staline en disant « Est-ce qu'on a la preuve qu'Hitler est mort au bunker? » Staline se contente d'hausser les épaules et de dire « Je ne sais pas ». Donc, la rumeur est lancée à ce moment-là. Et là, bien sûr, toutes sortes de théories du complot vont naître de ça. Il faut savoir qu'à l'automne 1945, durant cette situation, dans cette incertitude, les Britanniques vont charger le bureau du contre-espionnage, le MI5, de mener une enquête sur la mort d'Hitler. Elle sera confiée à un historien qui s'appelle Hugh Trevor Roper, qui lui va arriver avec un rapport qu'il va déposer au MI5, disant « Il n'y a aucun doute, Hitler est mort au bunker. » Et il présente tous les témoignages des proches d'Hitler qui étaient là, qui ont assisté à sa mort. Des gens, d'ailleurs, qui sont en procès à ce moment-là à Nuremberg, le fameux procès de Nuremberg, qui a été témoin de la mort d'Hitler. Donc, le doute ne semble plus permis.
Et pourtant, de sa présence à Berlin non plus, parce que plusieurs pensaient qu'il allait prendre fuite à son chalet dans les montagnes de Berchtesgaden, où il avait un réseau incroyable de souterrains là-bas.
Ce nid d'aigle, qu'on peut d'ailleurs encore visiter aujourd'hui lorsque l'on visite l'Allemagne. Gang. Voilà. Et au même moment où cette enquête est menée par les Britanniques, il y a un type qui s'appelle Ladislao Szabo, un type qui est un immigrant hongrois qui vit en Argentine, qui lui publie un ouvrage qui s'intitule « Hitler está vivo ». Hitler est toujours vivant. Là, on est en 1947. On est toujours dans cette incertitude. Hitler est-il vivant ou non? Et là, lui, il raconte une histoire qui va donner, en fait, qui va être un terreau fertile aux théories du complot qui vont suivre. Il dit avoir été lui-même témoin de l'arrivée de deux sous-marins, deux U-boats allemands qui seraient arrivés en Argentine et sur l'un de ces U-boats, le U-530, il aurait vu débarquer des passagers, pas clandestins, mais on comprend des passagers secrets dans l'anonymat, et ces passagers, il dit avoir reconnu Adolf Hitler et Eva Braun. Et on le sait, l'Argentine va devenir éventuellement, parce que c'est le régime des Perón, qui sont plutôt favorables aux philosophies entretenues par le Reich, et on sait que l'Argentine va devenir une terre d'accueil pour des nazis en fuite. On se rappelle de tristes mémoires.
On en a
mémoires.
Eu quelques-uns au Québec aussi.
Oui, absolument. Passant. On se rappelle de tristes mémoires qu'Adolf Eichmann, en 1960, a été arrêté en Amérique du Sud sous le nom de M. Clement et a été ramené en Israël, où il a eu son procès. On sait que le docteur Joseph Mengele, le bourreau d'Auschwitz, est mort en 1979 au Brésil, près de la petite ville de Hambourg, sous un nom d'emprunt, Wolfgang Gerhardt. Donc, on le voit, l'Allemagne, les gens qui ont fui l'Allemagne ont trouvé refuge en Amérique du Sud, et dans ces cas-là, il n'était pas impossible de penser qu'Hitler avait pu fuir. Mais évidemment, ce doute a été permis, mais en 1956, une nouvelle commission d'enquête, cette fois-là, menée en Allemagne, vont conclure que Hitler est bel et bien mort au bunker. Et puis, il faut attendre les années 2000 pour que finalement, avec la perestroïka, l'ouverture des dossiers, on découvre en fait la véritable histoire. Que s'est-il réellement passé? Le 3 mai 1945, les hommes du SMERSH, qui était le service de contre-espionnage de la Russie, de l'Union soviétique, sont arrivés, sont entrés au bunker. Ils ont trouvé bel et bien le corps d'Eva Braun et de Adolf Hitler. Les restes à demi carbonisés ont été transférés dans une clinique près de Berlin et il faut dire que Hitler avait une très mauvaise dentition. Il avait notamment eu plusieurs ponts orthodentaires qui avaient été faits. Et à ce moment-là, ses ossements, sa mâchoire en particulier, sera reconnue par ses médecins. Sans l'ombre d'un doute, on reconnaît les ossements, on reconnaît les travaux de dentisterie qui étaient faits par Adolf Hitler et sur Eva Braun. Les corps seront éventuellement transférés dans une maison qui appartient au régime de l'Union soviétique. Ils seront enterrés dans la cour arrière. En 1970, Andropov, qui va éventuellement d'ailleurs devenir le premier secrétaire de l'Union soviétique, qui à ce moment-là dirige le KGB, va demander à ce que les corps soient exhumés. Ils vont être éventuellement réduits en poussière et jetés dans un fleuve pour qu'on s'en débarrasse, pour être bien certain qu'il n'y aura pas éventuellement
lieu
de culte qui va être développé autour de ça. Et puis en 2000, donc ces archives sont ouvertes et on montre des photographies de la mâchoire. Il faut dire qu'il y a une confusion parce qu'on présente également un morceau de crâne qui était percé par un trou de balle, qui est présenté comme étant un morceau du crâne d'Adolf Hitler, mais des tests ADN démontrent que ce morceau de crâne est celui d'une femme âgée entre 20 et 40 ans. Donc cette partie de crâne n'est pas le crâne d'Adolf Hitler. C'est vrai qu'il avait été trouvé dans une espèce de fosse commune avec d'autres ossements, mais ce crâne-là n'est pas celui d'Hitler. En revanche, les dents, la mâchoire prouvent sans l'ombre d'un doute à 100%, le doute n'est plus permis. Adolf Hitler et Eva Braun sont bel et bien morts le 30 avril 1945 à 16 mètres sous la chancellerie dans un dernier suicide, un dernier pacte pour finaliser l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire du 20e siècle.
Monsieur Page, merci infiniment.
Ça m'a fait plaisir.
Dimanche prochain.
Absolument.
Salut bien.
Salut.